Dimanche 27 juin, les électeurs sont appelés aux urnes, de nouveau, à l'occasion du deuxième tour des élections régionales. Parmi les listes qui se sont qualifiées pour le second tour, celle du Printemps des Pays de la Loire et Écologie Ensemble Solidaire et Citoyenne, qui ont fusionné. Et aujourd'hui, dans le studio de Pont-Vallin, nous sommes avec la tête de liste sartoise de l'écologie et la gauche Ensemble Solidaire et Citoyenne. Bonjour Christine Taforo-Hardy.
Bonjour.
Jusqu'ici, on vous avait interviewé par téléphone et vous nous avez fait l'honneur d'être avec nous à l'occasion de ce second tour des élections régionales. Et pour commencer, on va vous demander votre analyse des résultats du premier tour.
Alors forcément, il y a une déception hein, quand on se lance dans une campagne, même si on savait qu'il y aurait fusion pour le deuxième tour, quel que soit le gagnant, hein, celui qui allait être en tête. Il n'empêche que voilà, quand on s'investit dans une campagne électorale, c'est dans le but de gagner et d'être devant les autres. Donc forcément, il y a eu de la déception. Après, maintenant, il faut rebondir. Quant aux résultats eux-mêmes, on voit déjà le faible taux de participation. Hein, très peu d'électeurs sont venus voter. On voit le résultat, nous, dans la Sarthe. Après, on est quand même satisfait du résultat du vote sur Arnage, hein, qui a quand même placé Guillaume Garot en tête avec 300 voix à peu près de plus. Donc ça fait chaud au cœur aussi. Et puis, le Mans, notamment, qui a placé aussi Guillaume, pas en première position, mais qui était devant aussi Mathieu Orphelin. Après, on voit bien le résultat qui est celui-ci. Alors, comment l'expliquer? Je l'ai dit tout à l'heure, le faible taux aussi de participation. Et puis, il y a un gros questionnement concernant la façon dont les gens ont pu avoir l'information.
Oui, la distribution chaotique des professions de foi, ça a pu jouer?
C'est ça. Alors, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir mesurer réellement. Moi, j'ai eu un échange avec un représentant d'Adrexo là, ce matin et je le lui ai dit parce que quand ils se dédouanent sur le fait que quelquefois ils ont eu des enveloppes vides ou d'autres soucis de la sorte, mais je lui dis déjà, moi, dans mon village d'un peu plus de 900 habitants, on n'a eu aucune enveloppe, que ce soit pour les élections départementales ou pour les élections régionales. Donc je lui dis, on n'a même pas pu nous rendre compte s'il y avait quelque chose dans l'enveloppe ou pas, puisqu'on n'a jamais eu d'enveloppe. Donc je le lui ai dit, quoi. L'incidence sur les résultats de ce premier tour, on ne pourra jamais la connaître réellement, mais il y a forcément une incidence. Enfin, moi, je l'ai constaté au niveau du bureau de vote que j'ai tenu le matin. Je veux dire, les gens venaient voter pour les départementales. Un certain nombre ne savaient pas qu'il y avait les régionales. Voilà. Donc, moi, c'est quand même beaucoup de personnes âgées qui se déplacent voter hein, dans mon village, principalement.
À l'homme.
Et en fait, cette information-là, il ne l'avait pas intégrée. Donc, il fallait leur dire aussi qu'il y avait ce second vote concernant les régionales. Et en fait, quand ils arrivaient devant cette table où il y avait tous les bulletins de vote, ils étaient perdus. Ils étaient perdus. Donc, ils regardaient la totalité. Certains regardaient de près, cherchaient un nom. Est-ce que c'était le mien ou pas? Je n'en sais rien sur la liste de Guillaume. Mais voilà, ils cherchaient. Ils ont d'ailleurs posé la question, est-ce qu'il y a des noms qu'on connaît? Donc, ça veut dire voilà, qu'ils avaient bien entendu quelque part qu'il y avait... quelqu'un du secteur, moi en l'occurrence, qui était sur la liste, mais nous, on ne peut pas leur donner l'information. Voilà.
Parce que donc, ça aurait été être jugé parti.
Ah ben oui, c'était impossible. Mais c'était extrêmement frustrant de voir ces gens chercher et d'une grande tristesse. D'une grande tristesse. Parce que moi, ce que j'ai pu constater, quelquefois, ils ne prenaient qu'un bulletin, ils finissaient par ne prendre qu'un bulletin, et c'était celui de Mme Morancet. Parce que c'est un nom qui évoquait quelque chose. Et le nom des têtes de liste, ils ne les avaient pas forcément tous intégrés. Voilà. Donc il y a un vrai questionnement de l'incidence qu'a pu avoir le manque d'informations par la non-distribution du matériel électoral.
Donc au Sénat, il va y avoir une commission d'enquête sur le sujet, c'est
oui, j'entends. Moi, j'ai eu un échange aussi avec le préfet dimanche, avec monsieur le préfet, mais moi, je lui ai dit, le premier tour, il est fait. Il dit, on mettra quelque chose en place, on a des... On nous demande de mettre en place quelque chose pour le deuxième tour. Je lui dis, ce quelque chose, je ne sais pas ce que ce sera. Mais de toute façon, tant mieux. Et on espère bien que le deuxième tour, il va se passer normalement, que les gens recevront bien les professions de foi et bulletins de vote. Mais n'empêche que ce premier tour, je lui ai dit, il est joué, il est fait. On ne peut plus revenir dessus. Voilà, donc ça veut dire que on va toujours avoir ça à l'esprit. Ça va être, c'est aussi une difficulté aussi quand on s'est projeté et qu'on espérait gagner, qu'on voit que c'est pas tout à fait ça et qu'il manquait peu de chance. On se pose aussi des questions. On se dit si ça avait été fait correctement, ça avait été assumé de la façon dont on pouvait l'attendre en tant qu'électeur, en tant que citoyen, ben peut-être que le résultat au bout du compte aurait pu être différent. On ne saura jamais, en fait.
Mais ça a le mérite de la clarté, et c'est ce que je disais, si on a constitutionnalisé le droit à l'expression, le droit à l'information, ce n'est pas vraiment pour avoir ce genre de choses.
Et puis moi, je lui disais également, on voit bien le désintérêt des gens pour la politique, pour aller voter, mais en renvoyant cette image-là, en fait, on ne va pas les inciter à se déplacer davantage.
Peut-être que vous pourriez leur rappeler les compétences de la région. Christine Taffureau-Hardy, tête de liste sartoise de l'écologie et la gauche, Ensemble solidaire et citoyenne. Peut-être que ça pourrait jouer, puisqu'il y a des gens qui ont également dit « on ne sait pas ce que font les départements, on ne sait pas ce que font les régions ».
Oui, c'est vrai que ça reste toujours un peu flou. Alors, moi, il y a forcément une compétence que je connais bien, c'est celle qui tourne autour de l'éducation et des lycées, hein, étant professeur en lycée agricole. Il y a une compétence très importante ici, aussi, celle qui contribue au développement économique, le tourisme, l'aménagement du territoire, les transports, la formation professionnelle, le logement, l'environnement, la culture, le sport ou les sports, et puis la santé, tout ce qui tourne autour du social aussi.
Donc, des sujets qui concernent
le quotidien de chacun. On n'a pas forcément conscience dans notre vie de tous les jours, mais la région intervient à différents niveaux et de notre vie quotidienne, oui.
Donc, je suis désolé de dire à ceux qui disaient, bah, oui, ça ne concerne que quelques-uns, parce que j'ai également entendu ça de la bouche
de
certains.
Non. Bah oui. Si, déjà, forcément, tout le monde passe par le lycée à un moment donné, quel que soit le lycée qu'on va fréquenter. Donc forcément, là, déjà, on bénéficie de l'aide financière et de l'accompagnement de la région.
Alors, ceci étant précisé, comme je le disais en introduction, vous êtes maintenant la tête de liste sartoise de l'écologie et de la gauche Ensemble solidaire et citoyenne. Au-delà de la satisfaction que ça doit vous procurer pour la liste que vous défendiez, celle menée par Guillaume Garot dans le cadre du premier tour. Il y a également une satisfaction personnelle pour vous ?
C'était aussi une nouvelle aventure pour moi. Voilà, parce que autant je suis élue conseillère municipale, c'est mon troisième mandat maintenant, mais je ne m'étais jamais lancée dans des... j'avais fait une partie de la campagne... des dernières élections régionales. Voilà, j'étais arrivée vers la fin de la constitution de la liste. Voilà, il y avait un petit souci avec une personne qui devait arrêter, donc j'étais venue la remplacer.
Donc une candidature de témoignage, comment
voilà, oui, tout à fait. Donc c'est vrai que l'implication était là, mais on ne le vit pas du tout de la même façon. Voilà. Là, il faut... Là, moi, j'étais tête de liste sartoise pour les régionales pour Guillaume Garot. Donc c'est vrai qu'il faut emmener les troupes, il faut organiser, il faut arriver à dynamiser les choses, voilà, et lancer pleinement les choses et former aussi un effet de groupe, voilà, une symbiose. Et ça, ça a été, c'est ce qui a fait qu'il y avait une certaine quand même tristesse aussi dimanche soir, voilà, de ne pas être devant, mais aussi de se dire que on avait vécu de très bons moments avec cette équipe sartoise. Ça a été de belles rencontres. Et puis on a fait le travail. On a fait une campagne honnête. Je pense, donc on n'a rien à regretter à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est un petit peu la frustration de se dire ça s'arrête là pour certains et ça va continuer pour d'autres. Et puis après, voilà, il faut rebondir maintenant et puis continuer à avancer pour que cette région retrouve sa place avec la gauche en tête.
25 engagements pour les Pays de la Loire, Christine Taffureau-Hardy. C'est ce que donne la fusion des deux listes emmenées par Mathieu Orphelin et Guillaume Garot. Alors, 25 engagements. Comment ces engagements ont été choisis, sélectionnés et quelles sont les thématiques qui sont les thématiques fortes?
Alors, de quelle façon elles ont été travaillées, ça, je n'y étais pas au plus près des choses. Après, on savait dans nos programmes qu'il y avait quand même des convergences, hein, un certain nombre de convergences. Et quand on regarde en fait les 25 engagements là, pour notre région des Pays de la Loire, on constate quand même qu'il y a de nombreux engagements qui étaient présents sur le programme de Guillaume Garot. Donc c'est une satisfaction aussi de retrouver, par exemple, le fonds anti-faillite hein, pour accompagner et venir en aide aux toutes petites entreprises et aux petites entreprises, parce que quand on va sortir aussi de ce contexte particulier dans lequel on est depuis plus d'un an, on sait qu'il y a des entreprises qui ont un carnet de commandes qui est bien rempli, mais qui n'auront pas forcément les fonds nécessaires pour faire face. Donc ces petites entreprises et toutes petites entreprises, il faudra bien leur venir en aide au moment où on sortira de cette crise. Donc ça, c'était quelque chose qui était sur le programme de Guillaume et qu'on retrouve dans le programme de...
Commun.
Commun de Mathieu Orphelin et de Guillaume Garot. On retrouve aussi le point important par rapport à la santé, hein, avec le souci qu'on connaît des médecins. Donc, salariés, 180 médecins, formés des infirmières, hein, 2000 infirmières, pardon. Et puis créer de nouveaux centres de santé et de maisons de santé pluriprofessionnelles. Et puis quelque chose qui me touchait particulièrement et que je retrouve avec satisfaction, c'est le plan, l'objectif zéro décrocheur au niveau de l'enseignement. Voilà, avec un accompagnement des jeunes en décrochage, voire des décrocheurs. Parce que ce sont des jeunes qu'on ne peut pas perdre et laisser sur le bord de la route, c'est impossible.
Il y a également un plan d'urgence pour les jeunesses. Qu'est-ce que ça inclut, ce plan d'urgence pour les jeunesses, Christine Taforo-Hardy?
Alors, le plan d'urgence pour les jeunesses, c'est de faciliter les services ce qu'on voyait derrière. Alors, c'était aussi faire en sorte de faciliter le quotidien de chacun avec une carte jeune qui incluait différents services. Ça veut dire, je ne sors pas une carte pour tel service et puis une autre pour tel service, etc. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul document, qu'une seule carte, pour faciliter les choses pour les jeunes. Et l'expérimentation aussi d'un chèque bien mangé de 50 euros par mois, parce qu'on voit bien aussi la difficulté, notamment qu'ont eu les étudiants pendant cette période difficile, et qu'ils ont encore, parce que les petits boulots qu'ils faisaient à côté, ben en fait, ils ont disparu. Et eux, il a bien fallu qu'ils continuent à manger. On se rappelle trop, malheureusement, de ces longues files, ces longues queues de jeunes allant chercher à manger, quoi. Ça, c'est une image dramatique.
Oui, vous parlez de la difficulté donc pour certains d'avoir des jobs, hein, comme ils faisaient des jobs en tant qu'étudiants. Et puis il y a certains qui ont dû perdre leur emploi puisqu'il y avait des entreprises qui ont fermé. Et justement, dans cette série d'engagements, les 25 engagements pour les Pays de la Loire, au titre de l'emploi des entreprises et des territoires, il y a 50 000 emplois qui sont annoncés deux fois. Premièrement, il y a les secteurs de la transition écologique qui sont cités.
Parce qu'en fait, on se rend bien compte que de toute façon, il va falloir s'orienter sur plus d'écologie, plus d'intérêt pour l'environnement. Et on va forcément avoir de nouveaux métiers qui vont apparaître, qui vont devoir apparaître aussi en lien avec cette évolution. Donc, il y a ces 50 000 emplois aussi qui vont apparaître et qui font partie des engagements. Et puis aussi, le soutien, ce qui est important, aux démarches territoire zéro chômeur de longue durée. Voilà, quelque chose qu'on retrouve aussi sur le programme de Ozon la Sarthe au niveau des élections départementales, parce que on l'a constaté dans des départements qui ont mis en place ce dispositif territoire zéro chômeur de longue durée, eh bien, on voit les bénéfices qu'ils en ont retirés. Donc il faut absolument essayer aussi cela.
Mais c'est quoi les bénéfices qu'ils en ont retirés?
En fait, les gens retrouvent un emploi. Voilà, c'est accompagner et c'est permettre à ceux qui ont quitté l'emploi depuis un certain temps, voire très longtemps, de remettre le pied à l'étrier et de retrouver un emploi. Donc c'est un véritable accompagnement, c'est de la proximité, c'est de la présence humaine, voilà, de façon à... Parce qu'on sait bien la difficulté quand on a quitté l'emploi depuis longtemps, on perd pied, on n'arrive plus à intégrer, à faire partie de la société pleinement, on se sent en marge. Donc il faut vraiment une proximité et l'aspect humain est énormément important.
Il y a également la volonté de soutenir les territoires ruraux. Donc, en matière d'équité, il y a des efforts à faire, Christine Taffaro-Hardy.
Oui, je vois bien qu'il faut, voilà.
Bah oui, pour quelqu'un qui habite l'Homme, vous ne pourriez pas me dire le contraire.
Non. Et on le voit au niveau des transports, notamment. Après, je sais bien que c'est la difficulté, nous, des distances, hein, entre le domicile, les services, ou le sport, etc. On est toujours obligé de prendre son véhicule, mais bon, est-ce qu'on ne peut pas améliorer les choses avec d'autres services, notamment, de façon de faire le relais entre nos villages, la gare la plus proche, que moi la plus proche, elle est à 18-20 km de chez moi. D'accord, j'ai cette gare qui peut m'emmener au Mans, à Tours, mais le problème, c'est que je fais ces kilomètres comment entre mon domicile et Château-du-Loire, Montval-sur-Loire. Et bien là, je suis obligée de prendre mon véhicule. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, voilà, possibilité de mettre en place d'autres services de façon à éviter que chacun prenne son véhicule.
Donc là, le développement durable, bien évidemment,
ben, bien
pour
sûr.
Une liste qui...
Que notre empreinte sur l'environnement, essayer de la diminuer.
Donc il y a une expérimentation aussi qui est annoncée, celle de la gratuité pour les 18-26 ans. Ça, c'est en matière de mobilité. Réinventer les transports collectifs abordables et durables sur tous les territoires. C'est important, ça aussi, de réfléchir à ce qu'on appelle l'intermodalité. C'est ce que vous abordiez. Mmh. Là, c'est vraiment au cœur. Et puis, il y a aussi une autre préoccupation, c'est de pouvoir se déplacer de territoire à territoire, pas forcément remonter vers le Mans. Ça aussi, c'est un besoin, ça.
Alors, on le voit aussi. Puis là, vous évoquiez la gratuité pour les 18-26 ans. En fait, dans cette volonté, il y a un double aspect. Il y a d'abord le point de vue économique aussi pour ces jeunes, parce qu'on voit bien les difficultés qu'ils ont traversées. Donc là, ils vont avoir besoin d'un coup de pouce. Donc ça, c'est une volonté de les aider financièrement. Et puis, ça incite aussi à utiliser le train, à aller vers des transports communs. Donc, au niveau de notre empreinte carbone, c'est pareil, ça va être ça la limite aussi.
Nous sommes avec Christine Taffaro-Hardy, tête de liste sartoise de l'écologie et la gauche Ensemble solidaire et citoyenne. Et avec elle, nous allons découvrir quelques-uns des 25 engagements pour les Pays de la Loire, fruit donc de la fusion entre les listes menées au premier tour par Guillaume Garot et Mathieu Orphelin. Alors, il y a également le cadre de vie, vous avez commencé à en parler. On a évoqué le plan d'urgence pour les jeunesses. Vous avez évoqué le dossier très important de l'accès à la santé, parce qu'aujourd'hui, le dossier des urgences médicales est encore sur la table. On en a parlé avec vous sur Radio Prévert lors de nos précédents entretiens. J'ai vu qu'il y a des propositions qui sont faites en ce sens déjà de salariés des médecins.
Oui, le salarié des médecins, parce qu'on voit bien que la difficulté que l'on a avec cette profession depuis quelque temps, on a eu aussi le numéro Clobus, donc ça a été aussi un souci. Il a été relevé, tant mieux. Après, l'impact ne sera même pas dans l'immédiat. Et en ce qui concerne le salariat des médecins, on se dit que ça permettrait aussi de les soulager d'un certain nombre de je vais y arriver, hein,
de tâches, c'est
de
ça,
tâches administratives, voilà, ouais. je vais le dire, de les rapprocher aussi peut-être d'autres collègues, de les intégrer aussi avec d'autres collègues, donc ils s'en sentiraient peut-être moins seuls. Et puis, ça permet, en salariant aussi, d'avoir un peu la main sur l'endroit où ils pourraient éventuellement s'installer. Parce que le souci, il est là. On a des médecins, mais on n'en a peut-être pas suffisamment, ça c'est sûr. Mais on voit bien que dans certaines parties de la France, ils sont quand même beaucoup plus présents que sur d'autres parties qui semblent moins attractives. Dans la Sarthe, on n'a pas de chance, on n'a pas la mer à proximité.
Voilà. On a la forêt, mais pas la mer.
Voilà.
Donc il y a donc le salariat, il y a donc le projet de salarier 180 médecins, infirmières et infirmiers.
En pratique avancée, donc ça c'est intéressant aussi. Parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas seulement entre guillemets, pas péjoratif, infirmiers et infirmières, mais en pratique avancée, ça veut dire qu'ils vont au-delà quand même, voilà, avec un encadrement. Et donc c'est aussi apporter... Une approche avec plus de proximité.
Et puis la formation de 2000 infirmières et infirmiers chaque année. J'allais dire deux fois infirmière, bon, il y a une fois de trop. Et puis également au niveau du cadre de vie, on évoquait le bien manger tout à l'heure avec les jeunes. Il y a également le soutien qui est affiché à une agriculture de qualité, de proximité, du champ à l'assiette. C'est important de lier la santé et puis l'alimentation, c'est lié
Bien sûr, mais je pense que de toute façon, au niveau du monde agricole, il y a eu une prise de conscience aussi. On le voit bien dans leur façon beaucoup plus raisonnée d'aborder leur métier et plus à l'esprit aussi l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'environnement. Et puis on voit bien aussi le nombre d'exploitants qui sont passés d'une exploitation on va dire traditionnelle à une exploitation bio. Donc on voit bien cette volonté aussi, il y a une prise de conscience et c'est aussi le souhait de cette proximité aussi. Voilà, d'éviter à avoir des produits qui ont parcouru des milliers de kilomètres. Voilà, on a des possibilités à côté de chez nous, et bien profitons de ces opportunités, de ce qui est cultivé à côté de chez nous, pour l'utiliser. Alors bien sûr, vous allez me dire, le blé, on ne peut pas maintenant, il va falloir le transformer entre-temps. Mais n'empêche qu'on a des producteurs locaux qui peuvent très bien être sollicités pour les établissements scolaires, etc., par exemple.
Et quoi, en termes d'écologie, qu'est-ce qui est prévu en termes de grands engagements en matière d'écologie?
Ce qui est proposé et l'engagement qui apparaît, hein, c'est une stratégie publique pour préserver les espaces naturels et agricoles, voilà, pour réduire l'étalement urbain. Alors là, il y a aussi une véritable prise de conscience parce qu'on a déjà, on constate, on a déjà, nous tous, dans nos villages, des habitations qui sont là, qui sont inoccupées. Et puis, on va aller à côté prendre un peu plus de terre pour construire des habitations nouvelles. Donc, peut-être aussi une vraie réflexion sur comment réhabiliter les centres-villes, les centres-bourgs et limiter ce développement urbain.
En matière de culture, de sport et de vie associative, on le sait, on le disait, le contexte sanitaire avec la crise du Covid-19 a beaucoup impacté pas mal de monde. Dès cet été, votre liste propose un fonds régional de soutien au redémarrage de l'activité culturelle. Comment ça va se manifester, ça?
Alors, en fait, il faut venir au soutien de ce monde de la culture. Hein. On voit bien la difficulté et la souffrance hein, que ce confinement et ce contexte sanitaire a engendré. Donc la difficulté derrière pour eux. Donc il va falloir venir les soutenir financièrement, les accompagner. Et puis peut-être les accompagner peut-être sur un maillage aussi territorial, s'appuyer sur ce qui existe déjà et surtout être là, à l'écoute, au plus près, pour connaître leurs difficultés et savoir vers quoi on peut, enfin comment on peut les aider, parce que peut-être enfin, apporter une aide financière, mais il y a peut-être aussi un accompagnement autre aussi à leur proposer. Mais en fait, il va falloir faire un état des lieux.
L'état des lieux, ça va concerner également la région, parce que vous la voulez maintenant exemplaire. En quoi faisant?
En s'appuyant davantage sur les citoyens. Hein, à travers un pacte citoyen et démocratique, on sait bien on sent combien les gens sont éloignés des décisions et de la région, du département, etc. Donc en fait, il y a une vraie volonté d'intégrer aussi les citoyens aux prises de décision. On voit ça a été la démarche aussi de Guillaume Garot avec la fabrique, puis les ateliers pour s'appuyer sur le quotidien et les remontées et les propositions des citoyens. Et donc, ça a conduit aux propositions qu'il avait faites et des propositions qu'on retrouve aussi dans les engagements, ces 25 engagements du programme de Mathieu Orphelin et avec Guillaume Garot, quoi.
Et comme chacun prêche pour sa paroisse, moi je vois quelque chose qui m'intéresse, des aides publiques plus accessibles pour les entreprises et les associations. Nous, on est une association, en plus implantée en milieu scolaire, qui émet dans un territoire rural et en tant que média de proximité, on a un modèle économique qui est basé aujourd'hui sur des subventions. C'est le modèle économique hein, qui est conçu comme ça. Et au-delà de notre cas personnel en tant qu'association, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que les structures associative ou autre, puisse avoir aussi un accompagnement, on le disait, à la lumière de ce qui se passe là, le marché qui est complètement bouleversé par la crise sanitaire. Christine Taforo-Hardy.
En fait, il faut revenir au plus près des gens. Il faut venir à la rencontre des uns et des autres pour connaître leurs difficultés, parce qu'on a une vision globale de difficultés rencontrées par le monde de la culture, par le monde associatif, mais ça reste une vision globale. Après, on connaît tous quelques cas plus précisément, mais en fait, il va vraiment falloir venir vers chacun, se rencontrer, et voir quels sont les réels besoins de façon à accompagner au mieux. Donc la volonté aussi d'aller au plus proche.
Et puis je retiens aussi que la volonté, c'est de devenir la première région non sexiste de France. Donc on sera là pour vérifier voilà, si les choses sont faites dans cet esprit-là, pour éviter voilà, qu'on ait à reproduire sur nos antennes des actualités morbides, où on parle de violence intrafamiliale, de discrimination ou autre. Mm-hmm.
C'est un véritable sujet, quoi. Il y a énormément de pédagogie à faire aussi, parce que je pense qu'il y a trop une façon de percevoir les choses ou de percevoir l'autre qui sont ancrées. Donc il y a un véritable travail pédagogique. On ne peut plus tolérer de voir s'afficher sur nos écrans la 92e, 93e, 94e femme décédée sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. On n'a pas le droit de s'habituer à ça non plus. Voilà, comme on n'a pas le droit de s'habituer à toute discrimination.
Et pour terminer, Christine Taforo-Hardy, dernier message hein, par rapport à ce qui a été noté au premier tour, l'abstention qui a été record. Pour ceux qui auraient encore quelques réticences à se déplacer dimanche prochain, que dites-vous ?
Il faut qu'ils effacent ces réticences. Il faut venir voter. C'est un droit et quelque part, c'est aussi un devoir. Enfin, si on souhaite vraiment que les choses changent, qu'on ait la main mise, on a l'opportunité de faire changer les choses, de faire basculer cette région à gauche et avec davantage de proximité et de participation citoyenne. Donc si les gens veulent participer, ben, c'est le moment de le faire en venant voter et en votant pour Mathieu Orphelin et Guillaume Garot.
Dont la liste s'appelle désormais l'écologie et la gauche ensemble, solidaire et citoyenne. On a été ravis de vous avoir invité, que vous ayez répondu à cette invitation ici même dans notre studio de Pont-Vallin. Christine Taforo-Hardy, tête de liste sartoise donc. Merci beaucoup.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Et bonne journée à vous et tous donc dans les bureaux de vote dimanche pour le deuxième tour des élections régionales. Et il y a également, vous le savez, des élections départementales.